Couture dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Fait que c'est ça.
Radio X.
Ouais, ben c'est la journée la plus achalandée dans les magasins.
Ah oui?
Aujourd'hui?
C'est aujourd'hui?
22, 23, c'est des grosses journées. Là. Quand tu regardes au niveau des transactions Interact, tout ça, c'est toujours à chaque année, 22, 23 décembre, les journées les plus achalandées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde en retard.
Ben oui.
Non, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même tout le Black Friday, il y a quand même tout ça qui arrive, puis les gens achètent à la dernière minute. Voilà.
Je fais partie de ceux-là.
Député fédéral conservateur de Charlebourg, Pierre Poilus, comment allez-vous?
Salut, ça va très bien.
Je voulais vous avoir parce que ça n'a pas été une petite année. Là, hein, quand on regarde, vous êtes député quand même depuis plusieurs mandats.
Ça a fait
mandats,
10 ans, moi, l'octobre. 4
bon,
mandats.
10 ans. Ouais. Quand vous regardez ça, là, en recul, là, puis tu sais, là, on commence à downsize, on commence à dire, hey, là, les émotions. Là. Mais ça a été une année... De mémoire d'homme, c'est-tu la plus importante que vous avez eue à traverser?
Une année effectivement très particulière, on ne peut pas dire le contraire, 2025, à plusieurs niveaux, en passant au niveau international, canadien, provincial.
Mais moi, Trump, tout. Là.
Moi, c'est sûr que de mon côté, on se rapporte qu'il y a un an exactement, on était sur le bord de passer un gouvernement majoritaire conservateur.
Mais vous étiez à 60% des intentions.
De Justin Trudeau, que tout le monde en avait... Plein le derrière, comme on dit. Puis non, on a effectivement, quand c'est arrivé, Donald Trump a changé l'équation, a créé une anxiété incroyable. Puis ma campagne électorale, là, sur 5 semaines, les 3 premières semaines, c'était juste ce qu'on entendait.
Non, non, c'est... Mais ça a été hijacké par les médias, ont pris le contrôle du narratif.
Ben absolument.
Puis...
C'était ça à journée longue. L'anxiété à côté, au fond. Trudeau est parti, Carney est arrivé, puis là, boum, le sauveur arrive. Puis finalement, la promesse de Mark Carney, c'était « Moi, je vais régler ça, je suis capable de négocier avec Donald Trump, je suis capable de régler les problèmes. »
Rapidement.
Fait que les gens ont fait confiance parce que, oublions pas, là, en janvier, février dernier, là, c'était la grosse anxiété des tarifs, le 51e État. Puis Carney, en arrivant, lui, un inconnu, mais que les gens l'ont vu que ses cheveux gris, ils ont dit « Bon, là, il fait confiance, c'est parti. »
Le banquier.
Et finalement, on arrive à un an plus tard, on a quoi, là? On n'a absolument aucun tarif qui est enlevé. Au contraire, Donald Trump a doublé les tarifs sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. Il n'y a absolument rien qui a été réglé par Mark Carney. Puis c'est ça. Et évidemment, il y a une frustration de notre part parce qu'on savait ce qui se passait, on savait ce qui arrivait, on avait des solutions. Puis même les libéraux ont pris des politiques conservatrices pour amener dans leur agenda parce que finalement, ça démontre qu'on avait raison. Mais bon.
Là, vous parlez des tarifs sur l'acier, l'aluminium. Ça, c'est full subventionné, là.
Ben là, c'est ça
qui
arrive.
Pour compenser la perte de revenus, nos taxes et impôts, on donne de l'argent à des grosses compagnies, là.
Ben là, c'est ça. Là, ce qu'ils ont fait, dans le fond, au lieu de régler puis de s'entendre avec Trump pour enlever les tarifs sont demeurés en place. Puis là, le gouvernement, par en arrière, subventionne les entreprises. Donc, les entreprises reçoivent des milliards. Il y a 9 milliards qui étaient mis là, dans le...
Récemment, là.
Oui, c'est ça. Dans l'argent de nos taxes, là, encore une fois, là, vu qu'il n'y a rien de réglé. Bon, on subventionne de l'autre côté. On achète la paix. Pendant ce temps-là, ben là, on n'entend plus crier. C'est normal, les gens, les compagnies ont eu des subventions. Mais il reste que c'est nous autres qui avons payé pour ça. Mm. Fait que là, en plus de ne pas avoir les tarifs, on subventionne les entreprises pour s'en sortir. Fait que c'est quoi qu'est-ce que Mark Carney a réglé? Rien.
Mark Carney semble être un favori de Trump. Dans la mesure où... Puis Trump, quand on regarde sa façon de négocier, Art of the Deal, son fameux livre... Il dit toujours l'ennemi, amène-le près de toi. Mm-hmm. Regarde qu'est-ce qu'il a fait avec Mandami aussi.
Ouais.
Il l'a amené à côté de lui. On s'attendait à un gros, gros choc. Mais il a fait la même affaire que Carney. Là. Il l'a amené à Maison-Blanche, il l'a assis sur une chaise, puis il l'a vanté. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de face-à-face, alors qu'on s'attendait à ce qu'au moins le banquier il réplique un peu. Pas pantoute,
Mark Carney est arrivé dans les rencontres avec Donald Trump. Un des lignes là, de communication qui s'est préparé en rencontrant Trump, c'est de dire « Ah, vous êtes un président transformationnel. » C'est quoi cette affaire-là? Là? D'aller dire, mais c'est juste pour faire plaisir à Trump. Il essaie de se faire plaisir. Mais de l'autre bord, après ça, Trump, il fait ce qu'il veut. La dernière rencontre qu'il y a eue, M. Trump a demandé à Mark Carney de venir à Washington. Personne ne savait vraiment pourquoi. M. Carney s'est assis dans le bureau ovale. Il a parlé 2 minutes. M. Trump a parlé 45 minutes. Il est reparti. Il n'y a absolument rien qui s'est réglé là. M. Carney a servi de marionnette à un show de Donald Trump là, pour juste démontrer. Puis il a dit aux Américains, « Ah, regardez, parce que là, n'oublions pas que les Américains payent les tarifs. » Fait qu'il a dit aux Américains, « Regardez, là, c'est parce que Mark Carney, il est dur à négocier. » Mais là, Carnegie est là, puis il sourit, puis il sait pas trop ce qu'il fait là.
Non,
c'était juste un jeu de Donald Trump.
Ben oui, c'était un jeu de
l'amener.
Pour
essayer de faire croire aux Américains qu'il avait de la misère à négocier avec le Canada, alors qu'il fait ce qu'il veut.
Mais tu sais, dans The Art of the Deal, c'est que ton ennemi, garde-les près de toi.
C'est ça.
Et donne-y des claques dans le dos pour dire que t'es d'accord, puis que c'est un gros jeu là, qu'on a vu là. Ouais. Je sais pas si tout le monde a vu la même game se dessiner. La suite des choses, parce que là, il y a l'accord de libre-échange qui sera négocié à tout le moins. On doit débuter des négos en 2026. Il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis. Est-ce qu'on voit une game où on voit les Américains peut-être baisser?
Ben, c'est le ton.
Ouais.
C'est dur à dire. Il y a deux semaines, j'étais à Washington. Justement, j'ai eu des rencontres au Capitole. Puis on a j'étais avec des collègues américains, autant démocrates que républicains, puis des Européens qui étaient là. Puis il y avait une tension. Il y avait une tension. Et les Américains des deux partis disaient aux autres, à tout le monde, il ne sera pas là tout le temps, Donald Trump. Fait qu'on voit que Donald Trump est au-dessus. Ouais. Même les élus républicains n'ont pas de contrôle dessus. Là. Fait que les messages étaient comme il ne sera pas toujours là, ça va finir par finir. Mais honnêtement, c'est difficile de voir comment la négociation du traité de libre-échange des Mexique, États-Unis, Canada va se faire parce qu'à un moment donné, on sentait qu'il voulait y aller de façon sectorielle ou faire du one-on-one. Américains, États-Unis, Mexique, États-Unis, Canada. Fait qu'on ne sait pas comment ça va finir. Mais ce qu'on sait, c'est que la dernière négociation, il y a 5-6 ans, n'a pas fait l'affaire à Donald Trump. Fait qu'il est resté frustré de cette négociation-là.
Ah, mais il y avait d'autres choses à faire aussi. Là.
Fait qu'il va arriver, on s'attend qu'il arrive avec des affaires très, très dures. Puis c'est pas réglé d'avance. Mais encore là, voyez-vous, Mark Carney est arrivé la semaine passée, il dit « Ah, ben là, on n'a pas besoin de continuer à se battre contre les tarifs parce que là, on va commencer la négociation du CUSMA, puis ça va se faire là. » Fait qu'il étire dans le temps.
On gagne du temps partout, là.
Tout le temps.
Mais élection de mi-mandat aux États-Unis.
Ouais.
Ça aussi, on sent que les démocrates, on a eu des résultats électoraux, les démocrates montent tranquillement. Ça joue dans la tête à Trump aussi.
C'est sûr. Puis il y a de la frustration aux États-Unis aussi parce que, justement, les fameux tarifs, les Américains doivent les payer. Donc, les compagnies
qui ont besoin d'acheter... C'est 1 200$ par famille qu'on dit, là.
En plus, puis quand les compagnies ont besoin d'acheter de l'acier, c'est pas vrai que l'acier n'est pas disponible aux États-Unis, donc doivent continuer de l'acheter au Canada en payant 50% de tarifs. L'aluminium, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que le plan global de Donald Trump, c'est sur du long terme, mais à court terme, il y a un impact direct. Donc, c'est pour ça qu'il y a une frustration qui s'installe et les familles américaines aussi. On subit une inflation, on subit des coûts qui augmentent. Donc, ils regardent, ils disent qu'est-ce que Donald Trump a fait pour m'aider. C'est un peu comme ici au Canada également, qu'on regarde là, vraiment. On a eu l'annonce d'un budget un an et demi plus tard. Ce sont des 18 milliards de déficit. Puis les gens regardent ça, puis ils disent le coût de la vie continue d'augmenter,
ouais,
le loyer,
exact.
L'alimentation. Qu'est-ce que ce déficit astronomique-là a fait pour m'aider? Puis les gens constatent que finalement, Mark Carney n'a rien réglé, au contraire.
La suite des choses, là, dans votre cas, vous avez perdu des joueurs au Parti conservateur. Il y a des députés, il y en a deux, là, M. Ma et M. D'Entremont, qui ont décidé, eux autres, de traverser la Chambre. Là, c'est quoi le moral? Parce que là, vous regardez tout, vous avez des caucus avec vos collègues.
Mmh.
Là, c'est qui le prochain?
Ouais.
C'est-tu mon voisin? C'est-tu lui? C'est qui va traverser? Et y a-tu un désir de vouloir changer les choses?
Ça, l'histoire de transfuge, il faut comprendre qu'il y a toujours des motivations qui sont différentes. Et effectivement, quand on est 142, tu te regardes, tu te demandes, y a-tu quelqu'un dans la gang autour de moi qui je peux pas faire confiance parce qu'il est en train de négocier avec les libéraux? Il y a ça aussi. Dans le cas d'Entremont, lui, c'était plus une frustration personnelle de ne pas avoir été réélu.
Oui, mais je comprends, mais tu
ne
peux pas faire passer tes frustrations personnelles avant tes commettants.
Je donne pas raison. Non. Je n'ai rien que te dire un peu pour les gens.
Exact.
Des fois, parce que souvent, j'ai fait plusieurs rencontres depuis 3 semaines dans le comté, puis les gens me posent des questions là-dessus. Puis lui, d'Entremont, c'est plus une question de frustration. Et le dernier, Michael Ma, ça, c'est la surprise.
Aïe.
Parce qu'il n'y avait absolument rien. Rien justifiait que ce gars-là traverse.
Le gars est au party des conservateurs la veille.
J'ai donné la main en rentrant dans
ça. Il prend des photos avec sa famille.
Ben oui. Puis en plus que lui, il s'est fait élire en avril sous Pierre Poilievre. Puis après ça, il a à différentes occasions dans la Chambre des communes fait des discours pour s'attaquer au gouvernement Carney. Puis là, arrive le lendemain de notre party de Noël, s'en va voir Carney à son bureau, fait un deal. Puis le soir même, après ça, il s'en va au party des libéraux. Mais lui, là, c'est un cas, honnêtement, je pense que le gars a juste comme pas compris comment ça marche. Puis il n'a pas compris qu'il représentait... Il était conservateur, qu'il représentait le Parti conservateur, qui avait été élu par des électeurs qui voulaient un conservateur. Et je pense qu'il y a eu une rencontre dans le bureau, puis M. Carney, il a fait du charme un peu, puis il a dit « OK, c'est beau, je vais aller avec vous autres. » Parce qu'il n'y avait rien de...
Mais
il n'y a pas une frustration de pas avoir ce qu'il voulait chez nous, de qu'on ait des politiques qui ne faisaient pas son affaire. Ça n'a rien à voir.
Lui, c'est Markham Union, c'est la banlieue de... Ouais, le GTA, là. Là, il y a du monde qui sent trahi, là, des électeurs.
Oui.
Pourquoi tu... Deviens donc indépendant. Mettons, Pierre Poilievre, pour toutes sortes de raisons, décide, moi, je suis conservateur, ça marche plus, je suis plus capable. Tu reviens indépendant, tu respectes le choix au moins de tes commettants.
T'as deux options. La première, tu démissionnes. Puis si tu veux vraiment être un libéral, ben fais-toi réélire comme libéral.
Ben, c'est ça, exactement.
Ou en tout cas, au pire, dépendamment des circonstances, indépendant. Ça pourrait peut-être être acceptable. C'est vraiment de quoi qui fait que là, il y a eu un problème majeur, mais que comme député, tu peux être un excellent député pour tes citoyens. Mais à la base, là, les transfuges. Honnêtement, là, moi, je déteste ça. Là.
Ben, dans le contexte actuel. Et surtout. Est-ce qu'on pourrait avoir un recall? On en parle souvent. Mm-hmm. Une espèce de processus où, si ça arrive, là, ben, il y a une pétition dans le comté, dans sa circonscription. Mm-hmm. Et si on va chercher 50% plus 1 de signature, ben, on retourne,
accepte le. Ouais, c'est
ouais,
ça.
On change le. En tout cas, on retourne en élection dans le comté pour provoquer quelque chose.
J'ai vu ce matin une nouvelle, là, je l'ai lu rapidement, mais je sais qu'un député du NPD, je pense que c'est Don Davis, le chef intérimaire actuel, qui avait déposé un projet de loi d'initiative privée au Parlement. Pour dire que dans un cas comme ça de transfuge, tu devais démissionner puis refaire une élection. Mais le recall, là, actuellement, ce qu'on a, c'est que dans le comté de M. Ma, il y a une pétition pour les électeurs de son comté. Il était rendu au-dessus de 40 000 signataires.
Ah, ils veulent le sortir, là.
Les gens sont vraiment fâchés.
Ben,
puis, c'est ça.
Ça arrange pas pour le cynisme.
Les gens, là, autant moi, tous mes collègues, tout le monde, là, quand on se fait élire, il y a, en premier lieu, les gens votent pour le parti, pour ce qu'on représente. Dans le fond, les gens veulent voter conservateur. Bon, ils votent pour le candidat conservateur. Puis il y en a qui peuvent voter pour nous parce qu'ils nous apprécient. Ça, c'est le fun, puis on aime ça, oui. Mais à la base, t'es élu comme conservateur, dans notre cas. Puis un bloquiste, c'est la même chose, un libéral. Donc, quand tu décides de traverser, là, c'est vraiment la première personne à qui tu t'attaques, où il y a ton parti, mais c'est les électeurs qui ont voté pour toi. Puis ça, ben, c'est inacceptable. Puis le monsieur, moi, je pense qu'il est en train de le vivre.
Là, les conservateurs, vous avez un gros congrès début janvier à Calgary. Je pense que M. Poilievre va avoir un vote de confiance. Mm-hmm. Hein? C'est prévu là,
ouais.
Dans la charte du parti. Comment on sent ça venir monter? Là?
Ben là, c'est les délégués qui vont voter. Donc, normalement, on va être autour de 2000-2500 délégués okay. Au congrès à Calgary. C'est fin janvier. On va voir le vote. Les délégués vont décider ce qu'ils vont faire comme décision. C'est très difficile pour moi de vous donner
C'est un pourcentage, hein? Il va y avoir un pourcentage.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de norme à savoir s'il y a un chiffre ou quoi que ce soit. C'est que, dépendamment du vote, le M. Poilievre va prendre une décision. Mais il reste que c'est... Moi, je m'attends qu'il y ait un très bon support parce qu'il faut savoir que, oublions pas que quand M. Poilievre avait été élu chef du Parti conservateur, là, il y avait 600 000 membres au Canada. Il a gagné avec une très forte majorité.
À 60%, 65%
des conservateurs, encore même quand on regarde des sondages, les conservateurs apprécient M. Poilievre.
Ouais.
Ils savent que... Puis en rétrospective, quand on regarde les propositions, justement, comme on disait en début d'entrevue, des propositions politiques qu'on faisait pour le Canada, ben, quand les libéraux copient ce qu'on voulait faire, c'est parce que les gens voient qu'on avait la bonne approche, les bonnes politiques, les bonnes propositions. Donc, moi, je suis confiant pour le vote pour M. Poilievre, puis c'est les membres qui vont décider, évidemment. Là, mais,
lui, après ça, va prendre ça, un peu comme Lucien Bouchard avait reçu un moment donné, vote de confiance, puis il n'avait pas aimé ça, mais Bernard Landry aussi, là, il avait boudé pas mal.
Ouais. Ben,
donc, ça va être une décision, tout dépendant de la hauteur du vote. S'il sent que le tapis est en train de glisser sous ses pieds, il va peut-être dire, regarde, pour le bien du parti, le bien de la nation, je quitte et je rentre dans mes terres, ça pourrait arriver.
Bon, honnêtement, ça y appartient, puis...
Tout est possible là, en politique.
Tout peut arriver, mais il reste que je sens que malgré les deux transfuges, dont un qui est complètement ridicule là, pour les motifs là, qui sont bizarres, le restant du caucus est très uni avec Pierre. On est toute l'automne, nous autres, là, on a fait nos affaires, on continue à se battre, à s'opposer aux libéraux, aux affaires qui ne marchent pas, on les supporte quand ça marche, parce que l'approche qu'on a prise aussi, oublions pas, après les élections, on a dit, compte tenu de la guerre tarifaire, puis tout ça, on a dit on est prêt à supporter le gouvernement, comme la loi C5 en mois de juin, on l'a fast-tracker, là, je veux dire, une loi pour permettre les grands projets nationaux. On a dit oui, on veut faire ça, on voulait le faire, on vous appuie. Donc, on est là aussi pour aider à accélérer, mais en même temps, quand il y a des choses qui ne marchent pas, ben, on s'oppose.
Ouais. Il y a eu beaucoup de projets de loi, C9, C2, sur la liberté d'expression, notamment.
Ouais.
Comment on voit ça à l'interne?
C2, là, quand il est arrivé, on a analysé tout ça, puis il y avait de mémoire une vingtaine de partis là-dedans. Là. On a parlé avec les libéraux. On a dit ça fonctionne vraiment pas, votre affaire. Là. Il y a des éléments là-dedans qui pouvaient fonctionner, mais il y a
d'autres
choses qui allaient trop loin, puis qu'il y avait, genre, les douaniers pouvaient ouvrir la poste puis voir les enveloppes.
Ben oui.
Dans la vie privée, il y avait beaucoup d'attaques à la vie privée. Donc, on a le C2 qui est encore là. C'est un restant de ce qu'il y avait au début. Fait que là, il n'a même pas avancé à la Chambre des communes. Là. Il est quasiment mort.
Il est
mort,
au feuilleton.
Il est là puis il ne bouge pas. Il y a C12 qui a été créé à partir des éléments qui étaient de notre côté plus positifs de C2. Il y a des amendements qui ont été proposés par mes collègues de sécurité publique et de l'immigration.
Le Sénat aussi qui a révisé tout ça?
Oui, là, c'est rendu au Sénat. Là. Fait que C12, lui, C12, c'est une version amélioré. Il y en a qui vont dire que c'est encore pas correct, là, mais ouais. Il reste que c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait dans ces deux. Ces deux, c'est des restants, dans le fond, qui devraient probablement mourir. Là.
Parce qu'il y a des choses très inquiétantes qu'on voit du côté de l'Europe, du côté de l'Angleterre, par exemple, où là, on peut enfermer des gens par rapport à des propos tenus ouais. sur des réseaux sociaux. Ouais. C'est ça qui s'en vient?
Avec C9.
C'est ça qui s'en vient au Canada? Là?
Dans C9. C'est un projet de loi pour les propos haineux.
Ouais.
Là, ils ont mis beaucoup de choses là-dedans.
Et
là,
on comprend, propos haineux, moi, si je menace de mort
c'est déjà dans la loi.
Du monde.
Ben, c'est ça.
Ça fait partie de la loi. Là,
c'est pour ça qu'il faut faire la différence. T'sais, des fois, les gens disent oui, il faut légiférer, mais c'est parce que quand on revient, on dit parce qu'on a déjà des lois. Si quelqu'un menace de mort quelqu'un, ça existe déjà, un code criminel. Adil Sharkawi, par exemple, à Montréal, là, quand il s'est servi de d'Allah pour dire au monde d'aller tuer des Juifs, là, ben, il aurait pu être arrêté si la sécurité publique avait voulu porter un.
Pourquoi on l'a pas
fait des éléments?
Ça, c'est une décision qui s'est passée à Montréal. Avec le Québec, mais la loi le permettait. L'article 319 permettait d'arrêter ce gars-là.
Ça, c'est inconcevable.
Donc, non, C9, c'est une loi qu'on ne supporte pas, nous autres. Il y a trop d'éléments là-dedans qui sont contre les libertés, tout en comprenant qu'il faut empêcher les propos haineux. Mais comme on dit, il y a déjà beaucoup d'éléments dans le code criminel.
Mais ça, C9, ça va-tu passer? Là? On est-tu rendu là?
Là, c'est en comité actuellement. Fait que c'est là, on n'oubliait pas que ça prend du temps. Là.
Une question d'auditeur. Qu'est-ce que vous pensez du rachat d'armes qui ne semble pas fonctionner?
Ah, ça, c'est la pire connerie qu'il n'y a pas. Ouais. Écoutez, on s'est toujours opposé à ça au niveau des conservateurs. Pas parce qu'on ne croit pas à la sécurité publique, parce qu'on ne croit pas à ce ban-là qui a été mis en place pendant la COVID, là, au mois de mai, 1er mai 2020, qui ont banni toutes les armes, ouais. Le semi-automatique, les armes des tireurs sportifs et beaucoup d'armes de chasse qui sont rajoutées là-dedans également. Oui. Là, les libéraux tournent en rond avec ça. Parce qu'ils voient bien que ça n'a pas d'allure.
Ouais.
C'est sûr que les armes, actuellement, les gens qui les ont ne peuvent pas s'en servir. Ils les gardent à la maison. Mais il reste que la majorité des drames en sécurité publique, les meurtres qui se passent dans les rues de Montréal, là, c'est des armes illégales. C'est des armes achetées
absolument.
Sur le marché illégal. C'est pas les armes détenues par des citoyens qui ont des permis. Qui ont
et ça passe là, aux douanes. Là, hein? Il y a des armes.
Ben là, c'est ça. C'est de contrôler. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est de contrôler l'accès aux armes qui arrivent illégalement par les douanes, par les Kanawagi. Les réserves autochtones, peu importe, il ne faut pas gêner, il faut le dire, par où ça arrive, puis le contrôler là.
On voit le transfert, notamment de Mark Carney parle beaucoup de l'Europe, puis des accords avec l'Europe. Puis là, on veut peut-être même faire des ententes au niveau de l'Union européenne, puis de la défense nationale, tout ça. C'est-tu dangereux, ce glissement-là intercontinental vers l'Europe, alors que nos alliés naturels, ce sont quand même les Américains. Là.
Comme tantôt, je disais, j'étais à Washington il y a deux semaines, j'étais avec l'OTAN puis le Conseil de l'Atlantique. Puis il y avait plus d'Européens à Washington. On était deux Canadiens, puis il y avait à peu près 120 Européens qui étaient aux États-Unis pour parler d'approvisionnement militaire et de défense.
Okay.
Donc moi, j'étais là, je disais, OK, nous autres, là, au Canada, on est en train de vouloir aller vers l'Europe pour se dissocier des États-Unis. Puis de l'autre bord, les Européens, il y avait 25 pays d'Europe représentés qui voulaient entendre parler d'approvisionnement militaire avec les Américains. Donc, comprenez-vous que c'est de la... faut vraiment arrêter, là. Faut...
d'être anti-américain.
On peut faire des affaires avec l'Europe. Il y a certains systèmes d'armes ou des choses que le Canada peut produire, vendre aux Européens, pourquoi pas. Mais c'est pas vrai qu'on peut se dissocier à 100% des États-Unis alors qu'on fait partie du même territoire. On protège le même territoire. Ouais. On doit être intégré. Malgré Trump, les militaires continuent de travailler ensemble actuellement. On tourne en rade, la surveillance aérienne, maritime, toutes les opérations
L'OTAN,
qu'on a à faire de l'OTAN, mais surtout quand on parle d'Amérique du Nord, de se dissocier des Américains, c'est complètement stupide de penser que ça se peut.
Il y a du monde qui a l'air à penser qu'on pourrait, là, genre...
On peut changer nos façons de faire de l'approvisionnement militaire en travaillant plus avec l'Europe, parce que les pays d'Europe sont dans l'OTAN, mais il reste que de travailler en collaboration étroite avec les Américains, ça s'en ira jamais.
Ouais. Pour le reste, là, l'Alberta a eu ce qu'il voulait, là, c'est-à-dire qu'on comprend que... Il va falloir que le Canada comprenne, puis le banquier l'a dit, là. M. Carney a dit, les politiques environnementales de Justin Trudeau là, ont démoli l'économie canadienne. Stephen Guilbeault a claqué la porte. Stephen Guilbeault, je ne sais pas s'il a compris le message, là, c'est out, là, va-t'en, là. À un moment donné, il y a ça aussi. Là. La réalité rattrape la fiction. Là.
Il y a ça. Mais en passant, pour le deal qui était fait avec l'Alberta, il faut faire attention parce que la façon que c'était fait, c'est que ça donne l'impression que là, l'Alberta maintenant peut se faire un pipeline pour l'envoyer vers l'ouest.
Non, c'est pas...
Mais Carney a laissé la possibilité à la Colombie-Britannique de dire non puis aux réserves autochtones. Donc, s'il y a un veto, actuellement, le premier ministre de Colombie-Britannique a dit qu'il n'y en a pas question. Donc, il n'a pas de projet. Fait que c'est un peu... une illusion,
il y a
mais il reste qu'effectivement, ce qu'on demande, nous, au contraire, c'est justement de permettre de le faire vraiment en disant il faut le faire, il faut avancer. Parce que là, les gens ne le savent pas tout le temps, mais le pétrole de l'Alberta s'en va vers les États-Unis, descend jusqu'au Texas, raffiné, remonte vers le Canada. On envoie notre pétrole à moindre coût, puis on leur paye plus cher après.
Ah non, c'est ridicule. Ouais,
c'est
vraiment
ridicule. Pourquoi on n'est pas capable d'exporter de ailleurs et surtout de raffiner nous-mêmes, de faire nos affaires. Mais ça, c'est pas... Moi, je pense que des fois, les gens ne savent tout simplement pas. Comme au Québec, là, il y a 2000 kilomètres de pipeline qui existent déjà. Il y a 9 traversées du fleuve qui existent déjà. Les gens ne savent pas, ça. Puis,
vous autres pensent qu'il n'y a pas de pipeline puis rien là, au Québec?
Mais
là,
ça existe déjà. Je vois dans les pistes là, des fois, en allant avec Victoriaville, ça va sur la piste là, puis il y a des pancartes en dessous, puis il y a le gaz passe juste en dessous. Je veux dire, c'est pas...
Y a rien c'est de... pas nouveau, là.
Il n'y a pas de magie non plus quand tu mets du gaz sur ton auto. Là. Ben non. Il y a quelque part, hein.
Donc, 2026 va être une grosse année?
Oui, là, ça va être une grosse année. Je pense que l'année 2025, on la termine en se disant que tout a chamboulé, tout est un peu n'importe quoi, je vous dirais, là, parce que...
Ah, ça tirait partout,
ça tirait de partout, là, à tous les niveaux, puis même au provincial, on l'a vu qu'avec l'histoire avec les libéraux provinciaux, puis ça a eu des répercussions aussi à Ottawa, parce que là, il y a un député libéral fédéral de Laval aussi qui est impliqué dans l'histoire, on n'a pas eu de nouvelles encore, là. Fait que nous autres, ça nous concerne à Ottawa.
Ouais.
Mais il reste que là, l'année 2026, là... Là, il faut voir. Là, il y avait des histoires. Est-ce qu'on va avoir une élection au printemps? Est-ce qu'on va faire une élection cet automne? On ne sait pas.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres conservateurs qui vont traverser la Chambre?
D'autres conservateurs.
Il y a plein d'affaires comme ça.
Pour différentes raisons.
Non, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux sur le plancher.
Mais je pense que notre job, ma job comme lieutenant du Québec, avec mes collègues du Québec, notre job comme conservateur, oui, après l'élection, on l'avait d'un dent, honnêtement. Là, on ne la trouvait pas drôle, personne. Là. Mais là, il reste qu'à partir. On est rentré en septembre. Puis notre job, c'est de continuer à travailler, à s'occuper justement, quand on parlait de la loi C9 tantôt, à faire de l'obstruction là-dedans, à faire défaire ça ou à la
faire améliorer. C'est 12, hein? On dit que c'est 12 aussi, c'est anti-liberté, là.
Ouais, mais c'était amélioré beaucoup, là. Ça n'a rien à voir avec ces deux, là.
Okay.
Il y a des affaires qu'on a fait changer, il y a des amendements qui ont été passés, puis c'est pas encore complété, là. Le Sénat va jouer là-dedans, là. Mais c'est pas parfait, mais ça n'a rien à voir avec
ça. Mais ça enlève beaucoup d'obstructions possibles.
Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a besoin de plus de force avec la loi pour contrôler les frontières puis l'immigration. L'immigration illégale
aussi. Ben,
il y a ça aussi.
Là,
fait que ça, cette loi-là sert à ça également, là, parce que l'aspect immigration, sécurité publique. Là.
Ça, l'immigration, beaucoup de gens, là, le Canada va ouvrir les vannes pas à peu près. Là, je pense qu'on a resserré les
C'était un
le
grave
goulot,
problème de la part de Trudeau, qui a commencé en 2017 quand il a fait un tweet là, qui avait dit à tout le monde, venez-vous-en, là, qu'on a eu le chemin Roxham. Ça a commencé là, puis là, ça a continué. Roxham, c'est fermé, mais les aéroports, là, si on va à Montréal, à Toronto, les aéroports reçoivent beaucoup de demandeurs d'asile. Et le problème, c'est beaucoup trop aussi de permis temporaires, de travailleurs temporaires, d'étudiants temporaires.
Beaucoup de Français qui sont venus au Québec, puis là, sont obligés de repartir.
Oui,
puis...
ça, c'est des différents cas, mais il reste qu'il y a, sur le territoire du Québec, par exemple, il y a 600 000 personnes sous permis temporaire. Puis là-dedans,
c'est trop?
Ben, c'est beaucoup trop. Là-dedans, il y a 140 000 demandeurs d'asile. Ça prend tellement de temps de traiter un dossier.
Mais ils font quoi, ces demandeurs d'asile-là?
Ben, il y en a qui ont des permis de travail, peuvent travailler, puis il y en a d'autres qu'on ne sait pas trop. Puis il y en a qui ont été. Que leur dossier a été évalué, puis qui ont dit, ben, finalement, vous devez retourner chez vous.
Puis ils sont disparus dans la nature.
Ils sont disparus dans la nature. Ça, on a
30-40
000 actuellement.
Mais ça, là, l'expérimentation de l'immigration, on l'a toujours vu, là. Ouais. C'est pas toujours joyeux, là.
Puis non, puis on a faut l'immigration, on en a besoin, on a toujours eu besoin.
Alors,
mais
nous,
ce qu'on
là,
demande
on a
de faire, c'est de ramener ça comme ça se faisait avant. T'as des immigrants économiques. Il peut y avoir des réfugiés, un nombre de réfugiés par année qu'on va sélectionner dans un camp de réfugiés qu'on va emmener chez nous. Réunification familiale aussi, mais de façon contrôlée. Là, c'est une perte de contrôle qu'il y a eu. On a au-dessus d'un million de personnes l'année passée là, qui ont reçu la citoyenneté puis qui ont rentré. Puis, je veux dire, on a perdu le calcul à un moment donné. C'est complètement fou. Là. Puis,
finalement.
Ça aide personne non plus. Hein. Les immigrants sont les premières victimes parce que souvent, il y en a qui s'en viennent ou qui se font amener
ici.
Oui,
c'est ça. C'est parce que des fois, on leur dit.
On leur met un rêve dans la tête. Ouais. Finalement, on s'aperçoit que, oups, ça ne marchera pas, il faut que tu retournes. Fait que ça crée des frustrations légitimes de la part de ces immigrants-là.
Ouais.
Fait qu'il faut juste ramener de l'ordre et de la discipline dans tout ça.
Les années de Justin Trudeau, là, ça a été un beau bordel.
On l'a dit pendant 10 ans, puis je pense que tout se confirme aujourd'hui.
On le constate
là,
officiellement.
Ouais. Pas de bon sens. Ouais, ouais.
Pierre Poilus, toujours un plaisir.
Ça plaisir. Merci.
Salutations aux gens. Et salutations aussi à Gabriel Hardy. Ça,
oui,
c'est votre recrue.
Oui,
il est impressionnant. Hein?
Député de Montmorency-Charlevoix.
Il fait très bien ça. En tout cas, on le salue parce que. Puis lui, on va l'entendre en 2026. Là, hein?
Oui.
Il va.
C'est un gars qui se consacre beaucoup aussi le sport, la santé. C'est un gars de gym. Hein? Puis à Ottawa, il parle juste de ça, la santé. Puis il veut ramener ça au niveau national, vraiment. Là. Ouais.
Lâchez pas. Merci beaucoup.
Joyeuse fête.
Merci.
Après la pause, Nick, on ouvre les lignes.
Ah oui, on parlait de restaurants tantôt. Ouais. Près de 5 % des restaurants qu'on connaît pourraient déclarer faillite, fermer carrément ou même disparaître. Puis j'ai réalisé, quand j'en ai parlé ce matin, que moi, j'y vais plus vraiment au resto non plus.
Ouais,
ben... avant, peut-être c'est une fois par semaine où on commandait, où on se déplaçait, que ce soit fast-food ou s'asseoir vraiment au restaurant. Mais Christian, il va plus.
Mais ça se peut-tu qu'en vieillissant aussi, tu t'aperçois de ce que tu... Tu sais, des fois, la bouffe est... Tu te dis, attends une minute, c'est salé.
Ouais.
Je suis bien mieux, tu sais, parce qu'on développe des talents de cuisinier aussi, là, tu sais.
Ouais,
dit,
ouais.
Moi, je suis capable de me faire une bouffe, là, que je paierais peut-être 300$ au restaurant. Puis, je pense que c'est pas gênant, là, ce que je fais.
C'est le fun de se gâter des fois, là, puis de dire, OK, genre, on va dépenser un 200-300, puis c'est une occasion spéciale.
Ouais,
mais,
ouais.
Tu sais, du restaurant, là, de façon hebdomadaire ou aux deux semaines, mettons, là, dans les habitudes de vie. Je me suis rendu compte que ça fait plus vraiment partie de nos habitudes.
Et
je me demande, est-ce que les gens ont encore de l'argent pour aller au resto?
Et sais? Encore, la semaine dernière, moi, je suis allé au resto, à l'avenue Cartier, c'était bien plein.
Ben, il y a du monde qui y vont, là.
Ben, de toute évidence, il y a du monde qui va dans les
restos.
Combien
de fois par semaine vous y allez? Combien de fois par mois? Je sais pas.
Ouais,
vous dépensez
ça.
Combien?
Exact.
88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Dans le mid, Radio-X.